Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Guillaume Dard.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Frédéric Farah, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, économiste, enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis sûr que vous allez adorer l'idée de faire plus d'Europe dans des quantités de domaines.
Oui, bien sûr.
Que je vous connais. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, on est en plein dans la thématique de votre dernier livre, hein. Membre du Cercle des économistes, et vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France. Dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Pourquoi l'Amérique gagne toujours, Guillaume Dard ?
Alors, elle ne gagne pas toujours, mais pourquoi est-ce qu'elle gagne en ce moment ? On peut discerner 4 ou 5 raisons. La première, c'est que l'Europe a fait le choix d'un modèle social généreux. C'est une bonne chose, mais, point 2, en contrepartie, elle est engluée dans la réglementation et la fiscalité. Ça a des poids. Par exemple, si vous prenez l'exemple des banques, les banques américaines aujourd'hui, enfin JP Morgan, c'est X fois plus grand que la plus grande banque européenne, alors que c'était dans des tailles comparables il y a 15 ans.
Il y a 15 ans, on avait des tailles comparables.
Oui, parce que post-crise de 2000, si vous voulez, si j'ose dire, en 2008, ce sont les banques américaines qui ont fait les bêtises, quelques banques européennes aussi, mais enfin, très minoritaires. Et finalement, on a mis la réglementation davantage sur les banques européennes que sur les banques américaines, et donc ça a bloqué le développement. Et ça a un coût relatif, parce que si vous avez des banques plus petites, ben, le financement. Trois, les États-Unis ont un énorme déficit budgétaire en ce moment, hein. Donc les États-Unis sont quand même boostés au déficit budgétaire. Trump l'avait fait, Biden l'a encore renforcé.
Il doit être dans les 8%,
mais,
c'est ça ?
Mais la différence... différence, c'est que c'est avec beaucoup moins de pression fiscale et moins de dépenses budgétaires au total. C'est-à-dire qu'il y a un déficit qui booste, mais l'économie américaine est beaucoup moins socialisée que l'économie européenne. Et puis cinq, où sont les... Il y a des grands entrepreneurs français, par exemple, dans le domaine du luxe, bien sûr, mais chez les innovateurs, où sont-ils ? Elon Musk, c'est un personnage qui a incroyablement... un nombre de défauts absolument incroyable. Enfin, néanmoins, il a réussi à faire partir... tous les 10 jours, il y a une fusée SpaceX qui s'en va, et je ne sais plus où en est le programme
Ariane.
Qui s'en
va et qui revient.
Et qui revient.
Et qui est fait de petits riens, d'ailleurs.
Et qui n'est pas fait de petits riens, et qui l'a quand même lancé tout seul. Il a été...
Personne n'y croyait au début.
Il n'a été financé par l'État qu'après avoir fait quatre tentatives tout seul. Et c'est qu'à la quatrième tentative, alors qu'il n'avait plus d'argent, qu'il était cherché des fonds de tiroir partout, qu'il a eu le soutien de la NASA. Donc, il y a cette volonté en Europe où on croit toujours que des grandes politiques de coordination internationale vont permettre de s'en sortir, parce que le succès d'Airbus aveugle tout le monde. Parce qu'en dehors du succès d'Airbus, il n'y a pas beaucoup de grands succès européens. Et donc, comme on veut absolument que ça soit l'État plus les États, avec la complexité de s'entendre à 27 pour lancer des grands programmes, on attend, on est dans le système. Et donc, l'esprit, pourquoi l'Amérique gagne à long terme, pourquoi elle a gagné à long terme, c'est un pays d'immigrés, c'est-à-dire des gens qui ont pris des risques. Et d'ailleurs, sur l'immigration, dernier sujet, c'est qu'ils arrivent mieux à absorber leur immigration. Et Jay Powell lui-même a dit que dans la croissance des 3 dernières années, eh bien, il y a eu l'afflux de l'immigration qui, finalement, a réussi à percoler, alors que nous, on ne sait pas très bien comment faire face à notre sujet d'immigration, comment les intégrer. Et ils ont, donc, si j'ose dire, ils ont tout bon, sauf qu'ils ont un gros déficit budgétaire, mais ils ont le dollar.
Ben voilà. Alors, si je reprends vos 4 points, pour moi, Guillaume Dard, mais c'est dit, modèle social différent, ça ne changera pas. Des banques qui ont pris une taille nettement supérieure d'ailleurs aux États-Unis à cause des réglementations prudentielles en Europe, on ne va pas les édulcorer. Un déficit beaucoup plus élevé, mais moins de prélèvements obligatoires grâce aux privilèges exorbitants du dollar. On n'aura pas le dollar, on n'a que l'euro, malheureusement, Frédéric.
Et un poids de l'État moindre.
Oui, et des innovateurs qui sont éternellement américains. On parlait des GAFAM, maintenant on parle des 7 magnifiques, qui sont peut-être 12 bientôt. Quand vous me dites ça, j'achète la démonstration et pour moi c'est fini.
C'est la fin de l'émission.
Christian, alors, Frédéric Farah, si vous voulez poursuivre.
Ben alors, je propose un complément à ce diagnostic, en disant pourquoi les Américains gagnent, et on va le faire à l'envers, on va dire pourquoi les Européens perdent.
On peut aussi.
On peut faire les, pourquoi les Européens perdent.
C'est très fort, hein, il est très bon. On sent le mec qui est habitué au joutor.
Exactement. Pourquoi les Américains, donc pourquoi les Européens perdent? Alors pourquoi, pour moi, pourquoi les Européens perdent? Parce que c'est la sanction sur plus de 30 ans de l'échec de comment conduire une politique économique. Alors je m'explique.
Ah oui, expliquez-moi là. Alors, parce que,
Moi, je l'explique.
Dites donc, bien les conduire une politique économique pour les Européens. Hein.
Voilà. Je vais démontrer ça en essayant d'être le plus rapide et le plus clair possible. Donc, la stratégie européenne s'est construite à partir des années 90 sur les piliers suivants. C'était une politique de règles contre la politique de discrétion. C'est-à-dire qu'il fallait faire une politique de règles, c'est-à-dire le pacte de stabilité en est un, le déficit 3%, 60%. Et on avait dit, il faut bloquer les outils de politique économique traditionnelle, c'est-à-dire méfiance à l'égard de la politique budgétaire, tout sur le monétaire, et on avait dit, pour arriver à de la croissance, on va faire les réformes structurelles. Donc les réformes structurelles, réforme du marché du travail, réforme de la protection sociale, réforme sur le marché des biens et services pour plus de concurrence, et on a dit, ça c'est le programme qu'il faut mettre en œuvre. On l'a réitéré en 2000, lors de la stratégie Lisbonne de mars 2000, 23 mars 2000 si ma mémoire n'est pas mauvaise, et on avait dit, une fois qu'on va faire ça, on va mettre en œuvre toutes ces réformes structurelles, on fait des politiques de règles, et à la fin, on a quoi ? Pacte de stabilité et de croissance, la stabilité et la croissance. Qu'est-ce qu'on a à la fin ? On n'a pas la stabilité, on n'a pas la croissance. Donc, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, quand arrive la crise de l'euro, qu'est-ce qu'on fait ? Au départ, on se dit, ah, c'est pas terrible, ces politiques de règles, il faut les remettre un peu en cause. Finalement, on abandonne ça entre 2010 et 2011. 2011, on retrouve les bonheurs de l'austérité, on flingue la croissance économique européenne et on commence à retrouver des niveaux de croissance avant crise à l'orée du Covid. Manque de bol, le Covid arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Merde, on avait oublié le budget, c'était une chose importante. Et comme au niveau national, on est contraint, la dette augmente de partout, on essaye d'inventer un instrument européen. Next Generation UE. Donc on essaie de faire un plan. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, on se retrouve avec un déséquilibre dans la politique monétaire, c'est-à-dire, ça a penché trop du monétaire. Le monétaire devait à la fois restreindre quand l'activité surchauffait, relancer quand l'activité ralentissait, et avec un budget au niveau national qui n'en finissait pas d'être noyé dans les dettes, et de l'autre côté, au niveau européen, on n'arrivait pas à trouver de nouveaux instruments. Qu'est-ce que nous apprend la théorie économique ? Il y a deux règles pour faire de la politique économique. Une règle d'efficacité, une règle de cohérence. La règle de cohérence, c'est la règle de Tinbergen, un instrument, un objectif. La règle d'efficacité, choisir le meilleur instrument par rapport à l'objectif visé. Or, en Europe, il y a un déséquilibre entre le budget et, comment dire, et la monnaie. Et les réformes structurelles, est-ce qu'elles ont été faites en Europe ? Oui, en Allemagne, on a réformé le marché du travail et l'État-providence. En Italie, est-ce qu'on a réformé ? Oui. Aux Pays-Bas, on a réformé. En Suède, oui. Même nous, en France, on a fait plein de réformes du marché du travail. Donc, pour moi, il y a un problème, c'est que la stratégie de Lisbonne a échoué. L'Europe ne fait que diverger, ne converge pas. On a fait Europe 2020, ça n'a pas trop marché. Aujourd'hui, tant qu'on ne repense pas l'architecture entre un niveau fédéral, c'est-à-dire le monétaire, le niveau national, c'est-à-dire les budgets, et on n'imagine pas quelque chose de plus structuré au niveau européen, on va toujours être dans une croissance molle, jamais dynamique, et on n'arrivera jamais à rattraper les États-Unis.
Mais c'est ce que dit Enrico Letta.
Voilà.
C'est ce que dit Mario Draghi.
Voilà ma démonstration.
Bah, et voilà, Enrico Letta nous dit il va falloir dépasser le niveau national dans la finance, dans les télécoms, dans l'énergie, dans la défense. Mario Draghi dit hier il faut aller plus loin dans l'union des marchés de capitaux. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on en dise un mot de cette union des marchés de capitaux. Voilà, mais... Consolider les secteurs de la défense qui sont éclatés ainsi que les télécoms. Penser qu'on a des biens communs, notamment les réseaux d'énergie. Et sécuriser les approvisionnements dans les matières premières critiques.
Voilà, mais c'est-à-dire juste un mot, c'est qu'en fait, toutes nos politiques économiques européennes ont fabriqué ce que j'appelle la grande vulnérabilité. C'est-à-dire, ça nous a rendu une vulnérabilité massive. Donc, si on ne revoit pas toute notre architecture de politique économique, et Mario Draghi le dit très bien, parce que je l'ai lu dans la Repubblica hier, italienne, il dit très bien, le monde des années 90 qui nous a fait construire nos choix, nos orientations européennes, est derrière nous. Il est temps, enfin, d'en prendre acte. Voilà.
C'est l'objectif de la réunion des 27.
Voilà ce que je voulais dire.
Mais bon, vous êtes...
Et dont Christian
Saint-Etienne, dont il ne se sortira que...
Dont il ne sortira rien, bien sûr.
Ah, c'est la journée d'aujourd'hui. On peut imaginer que les réflexions des uns et des autres, et notamment des leaders italiens dont nous parlons, vont pouvoir nourrir les réflexions.
Ce qui sortira, c'est un renforcement du système en place depuis 30 ans. Puisque à chaque crise... L'Europe nous enfonce et néanmoins on dit la solution c'est plus d'Europe. Alors il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot de la concurrence. Alors il faut revenir à, il y a bien sûr les choix de Lisbonne, mais il faut revenir à 1956.
Mais vous passez un peu vite sur il faut plus d'Europe. Peut-être qu'il y a des domaines comme ceux-là où il faut plus d'Europe.
Non, mais la question, c'est comment. Oui. Donc, je reviens à 1956, lorsqu'on négocie le traité de Rome, qui va être signé en mars 57. Et à cette époque-là, les Allemands imposent comme structure et colonne vertébrale du traité de Rome le principe de concurrence. C'est-à-dire que tout doit se régler par la concurrence, et les deux seuls articles clés du traité de Rome, et y compris du traité actuel modifié par une quinzaine de traités, y compris l'acte unique, le traité de Maastricht, ainsi de suite, ce qu'on appelle le traité actuel consolidé, il n'y a que deux articles qui comptent, ce sont les articles sur la concurrence. Et au début, c'était ce qui était voulu, c'était une concurrence sur les marchés de biens et services, mais c'est devenu, dans les mains de l'État, avec l'aide de la Cour de justice européenne, un instrument aux mains des bureaucrates européens pour contrôler non pas les entreprises du marché, mais les États eux-mêmes. Donc, on s'est retrouvé dans c'est la base et la source de cet univers de règles qu'on évoque. Alors, dans ce contexte, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle l'Europe, ce n'est pas un système politique, institutionnel et stratégique, surtout pas stratégique. Il n'y a eu aucune vision stratégique depuis 70 ans au niveau européen. C'est un système bureaucratique au sens pur du terme, c'est-à-dire au sens de la théorie des organisations et de la théorie de la régulation qui a donné plusieurs prix Nobel américains, donc la théorie de la bureaucratie. Vous avez à Bruxelles, bon, il doit y avoir 25 000 fonctionnaires, mais il y en a un millier qui tiennent le système, extrêmement bien payés, où les Français sont aujourd'hui sous-représentés. Il reste encore des Anglais de façon assez stupéfiante, mais il y a surtout beaucoup d'Allemands, de Néerlandais, qui ont parfaitement compris que c'était là qu'il fallait être. Et dans ce système-là, on a essayé de casser progressivement les États. Donc, en sous-jacent de ce système déséquilibré de politique macroéconomique, il y avait aussi la volonté de déshabiller les États, et notamment le seul qui l'a ramené en permanence sur tous les sujets, c'est-à-dire l'État français. Sachant que l'Allemagne avait un avantage dans ce domaine, qui était que les politiques allemandes étaient menées au niveau des Länder, et la Commission européenne a toujours fermé les yeux sur tout ce que font les Länder, et a toujours cogné l'État français. Donc, si on fait plus d'Europe, ça ne sera pas une Europe de nouvelles politiques macroéconomiques. Ce ne sera pas une politique stratégique européenne. Ça sera quoi ? Ça sera une politique encore plus bureaucratique, puisque c'est devenu l'essence du système.
C'est super réjouissant. Hein.
Non, mais est-ce que vraiment,
on va faire passer la parole quand même.
Oui, mais et donc je termine par là. Si on veut avancer, moi je vais dire un truc absolument fondamental, il faut casser le système. On ne pourra pas le faire évoluer.
Je garde l'expression casser le système parce que j'aimerais que vous me l'éclairiez, cette expression. Guillaume. Non, mais casser le système,
Christian,
et puis l'histoire de l'Union
du marché. Et comme moi, un Européen, mais comme moi, il est effrayé par l'appareil bureaucratique qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'au fond, on espérait que.
On voulait une Europe stratège, on a une Europe bureaucratique.
Voilà. Et parce qu'en plus, on espérait que la France ayant quelques tendances à la bureaucratie par elle-même, que l'Europe allait être une antidote aux habitudes françaises. Eh bien, pas du tout. Ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est une bureaucratie au carré, et je vais donner un ou deux, après la démonstration brillantissime de Christian sur l'aspect stratégique et idéologique de l'Europe, je vais donner deux exemples, par exemple. Dans l'industrie de la gestion
financière,
qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est, bien sûr, la comparaison ne peut pas être tout à fait bien faite avec l'agriculture, parce que c'est une industrie de type différente. Mais enfin, grosso modo...
Mais l'idéologie derrière est la même.
L'idéologie est la même, c'est-à-dire il faut privilégier le consommateur à tout prix, et donc il faut avoir une politique du moins-disant. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qui sont les plus gros producteurs de gestion au monde, Nicolas ?
Ça doit être les Américains, j'imagine.
Voilà. Et le deuxième, c'est la France, non ?
Deuxième après, oui, c'est les Européens, mais enfin, on ne met pas les grands fonds de pension, donc c'est un peu subtil. Mais enfin, disons, les premiers, ce sont les Américains. Qu'est-ce qu'ils font, les Américains, quand ils vont sur le marché européen ? Ils font la stratégie classique du dumping. Donc, les produits européens, américains arrivant sur le marché européen, ils sont pricés à 3 fois moins cher que la moyenne européenne, enfin 3 fois moins cher que les prix, grosso modo, parce que je ne suis pas sûr au millimètre, des prix qu'ils pratiquent sur le marché américain. Donc, et ils poussent à ce qu'il y ait des réglementations d'ouverture. C'est pour ça que l'union des marchés de capitaux, il va falloir être très prudent, parce qu'il ne faut pas que ça serve à un cheval de Troie américain, mais il y a des réglementations qui sont en cours, il y a un
ça
débat.
Ça va servir, ça va
être. On va faire l'union des marchés de capitaux.
Il y a un débat, enfin, il y a une réglementation en marche qui fait que, grosso modo, on dit qu'il faut vraiment que le consommateur européen ait le prix le moins cher, ce qui est louable en soi.
C'est la grande théorie de Jean-Marc Daniel.
Bien sûr, sauf que, quand on parle avec Jean-Marc...
Quand il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de consommateurs.
Sauf que s'il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de consommateurs. Et que deuxièmement, là, le producteur européen, où est-ce qu'il investit l'argent ? En Europe. Alors que le producteur américain, il investit un peu en Europe, mais il a un biais américain. C'est-à-dire qu'on a fait à peu près les statistiques, quand ce sont les Américains qui gèrent l'argent des Européens, ben, il y a 70% de l'argent qui repart aux États-Unis. Enfin, qui part aux États-Unis. Alors que quand c'est européen, ben, il y en a 70% qui sont investis en Europe. Donc c'est un enjeu de souveraineté. Et donc on est en train, l'Europe, de façon assez bureaucratique, avec des processus extrêmement complexes dans la trilogie entre la Commission, le Parlement et les gouvernements, parce que vous savez que tout ça, c'est à chaque fois ce qu'on appelle un trilogue d'une complexité extrême, et il faut dire que là, le citoyen européen de base, il ne peut pas suivre, et avec des lobbies américains très puissants, qui font que dans cet exemple, la bureaucratie européenne risque d'envoyer l'argent des Européens aux États-Unis, et donc ça, c'est un sujet absolument
majeur.
C'est
très important et très grave ce que dit Guillaume.
Parce que s'il n'y a pas d'argent, parce que sur tout le reste, si en plus on envoie l'argent aux États-Unis pour ces magnificentes, alors bien sûr que de temps en temps on met chez Mistral ou quelque chose, mais ce sont des petites choses, alors que 80% de l'argent va aller là-bas, et que donc
on va mettre 10 balles sur Mistral et 100 millions sur les magnificentes.
Oui, voilà. Et c'est ce qu'on déplore d'ailleurs avec l'attitude des épargnants allemands aujourd'hui. Mais là vous êtes en train de me décrire, c'est cataclysmique ce que vous me dites.
Avant 10h j'ai une solution.
Oui, ben j'espère. Frédéric Farah, on a 2 minutes 20, mais on y revient juste après, allez-y.
Bon, juste par rapport à ce qui vient d'être dit et qui est très important. On a eu un petit épisode, alors il n'y avait pas l'union des marchés capitaux, de ce problème. C'est les années de croissance molle dans les années 90. C'est-à-dire que pendant que l'Europe était en croissance molle parce qu'elle préparait la naissance de l'euro, l'épargne des Européens, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a servi à financer les années Clinton. Voilà ce qu'elle a servi dans ces années 92-2000. Donc, pendant que nous, on était en train de s'enfoncer dans une croissance molle, comme le disait Jean-Paul Fitoussi, eh bien, les années Clinton, c'est 20 millions d'emplois créés aux US entre 92 et 2000. C'est des années où les États-Unis se portaient plutôt bien. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? L'épargne européenne est allée financer nos amis américains.
Mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui. C'était rien, parce que l'Europe, ça allait pas mal à la fin des années 90.
Oui, j'allais vous dire, on avait... Attention.
97, 99, ça va bien.
C'était des années de belle croissance.
Attention. Avec un euro très faible.
Attention, juste sur cet épisode.
À partir de 99.
Avant... On s'est payé quand même dans les années 90, avant la fin de la décennie 90, des taux d'intérêt réels qui étaient extrêmement élevés. Et je rappelle dans le débat interdit de Jean-Paul Fitoussi combien il mettait en avant cette politique monétaire anormalement restrictive de l'époque et qui flinguait la croissance européenne. Ça, c'est un premier épisode. Et effectivement, dans la mondialisation, l'idiot utile, c'est souvent l'Europe. Bon, ça on le sait. D'ailleurs, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut observer l'Europe de l'intérieur, parce que quand on dit l'Europe, j'ai jamais dîné avec elle. Hein. Je sais pas, l'Europe, elle a dit bonjour, je suis l'Europe. Enfin, je l'ai pas vu me dire ça. Enfin, bon, à moins. Et d'ailleurs, Jacques Delors s'est pas trompé quand il disait que l'Europe c'est un OPNI, un objet politique non identifié. Hein, il avait pas tort de le définir comme ça. Et pour revenir sur ce que disait Christian Saint-Étienne, je suis tellement d'accord. Surtout la mutation de la concurrence entre 56-57 et ce que ça devient avec l'acte unique, c'est-à-dire on passe de la concurrence non faussée à la concurrence libre et non faussée à partir des années 80. Et il y a une modification du statut de la concurrence à partir des années 80 et qui fait qu'on va fonder tout l'ordre juridique européen sur un ordre concurrentiel qui va poser un problème et qui va empêcher de construire une Europe qui va pouvoir affronter effectivement la mondialisation. Et d'ailleurs, c'était tout le débat à l'intérieur de la construction du marché unique. Il y avait ceux qui étaient pour dire il faut laisser le marché faire et d'autres étaient plus pour la logique qui était celle de construire des champions européens, en quelque sorte. C'est la première famille qui l'a, qu'il a emporté. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a sur la construction du travail européen, enfin sur le marché unique européen, les travaux passionnants d'un Néerlandais qui s'appelle Bastian van Apeldoorn, qui a travaillé là-dessus et qui est absolument génial. Mais je tiens à le dire.
On marque une pause
pour l'occasion. Mais on reviendra sur ça.
Bon, dans un instant, je reviens là-dessus. Je veux absolument qu'on précise un peu encore une fois cette union des marchés de capitaux qui est de plus en plus mise en avant alors qu'on n'en parlait pas vraiment régulièrement il y a encore 2 ans. Et puis casser le système. Alors casser le système. Là, vous venez de me décrire une espèce de programme de perdant-perdant qui est inscrit depuis les années 50.
On voit le résultat. C'est la non-croissance européenne depuis 20
clair.
Ans.
Les chiffres sont très clairs. Bon, on marque une pause. On y revient dans un instant. Puis on va quand même se pencher sur le programme de stabilité français. Les Français.
Avec suite. Il y a un
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.